ce que je vais vous dire est partagé en trois. Il va y avoir un petit apéritif, le corps de ce que je vais dire, et un petit dessert. L'apéritif, c'est un document d'archives très court de la RAI, hein, la télévision italienne, parce que je pensais que ça pouvait être intéressant de vous faire entendre la voix de Jean XXIII. Jean XXIII, on le représente un peu enrobé, et on imagine qu'il a une voix douce. Or, la voix, le discours qu'on va entendre, c'est un discours qu'il a prononcé, il a improvisé totalement. Ça se passe le 11 octobre 1962. On vient de vivre la première journée du Concile, et il y a une grande procession au flambeau entre le château Saint-Ange et la place Saint-Pierre. Et là, Jean XXIII va parler. Alors, je voudrais vous laisser entendre totalement l'italien, parce qu'il faut entendre la voix du pape, et avant, je vous le traduis. Hein, je vous le traduis en n'oubliant pas que cette voix, c'est la voix de quelqu'un qui sera mort 6 mois après, hein, puisqu'il meurt le 3 octobre, il meurt le 3 juin 1963, donc il y aura 50 ans dans quelques jours. Je vous lis très rapidement la traduction et vous allez reconnaître les mots, même ceux qui ne parlent pas italien, vous allez reconnaître les mots. « Cher fils, j'entends vos voix. Je n'ai quant à moi qu'une voix, mais elle récapitule toutes les voix du monde. Ici, le monde entier est représenté. On dirait que la lune, c'est pour ça que ce discours est appelé le discours à la lune, il est très célèbre. On dirait que la lune elle-même est venue en hâte ce soir pour regarder ce spectacle que la basilique Saint-Pierre, qui pourtant a 4 siècles d'histoire, n'avait jamais pu contempler. Ma personne n'a aucune importance, ce n'est qu'un frère qui vous parle, devenu père par la volonté de notre Seigneur. Tous ensemble, fraternellement, par la grâce de Dieu, honorons la grandeur de cette soirée. Que nos sentiments soient toujours comme nous les exprimons en ce moment, devant le ciel comme devant la terre. Foi, espérance, charité, amour de Dieu, amour des frères, paix. En rentrant chez vous, vous trouverez vos enfants. Faites-leur une caresse et dites-leur, c'est la caresse du pape. Vous trouverez quelques larmes à essuyer. Dites une parole de bonté. Le pape est avec nous, tout spécialement pendant les heures de tristesse et d'amertume.
La voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservata in alto, a guardare a questo spettacolo. Chi è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, la mia persona conta niente. È un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, a volerci bene così. Guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente, fratres sums, stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare, fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino. Così dunque, vogliate attendere alla benedizione che vi do e anche alla buonanotte che mi permetto di augurare.
Thank you.
Voilà, je pensais que c'était important d'entendre cette voix du pape. Alors maintenant, je passe au corps de ce que je vais vous dire. Je vais d'abord vous parler en quelques points. D'abord de Bacanello. Je vais vous apprendre où est Bacanello. C'est un lieu très important dans la vie du pape Roncalli. Ensuite, je vous parlerai donc du tertiaire et de l'ami de la famille franciscaine. J'essaierai de vous montrer que c'était vraiment un véritable tertiaire. Et combien, et je voudrais terminer là-dessus, ce pape franciscain, combien, puisqu'il est aujourd'hui béatifié, combien il peut être aujourd'hui un modèle pour les tertiaires séculiers de la famille franciscaine. Alors, pape et tertiaire, c'est quelque chose au 19e et 20e siècle qui est assez banal finalement. Il y a beaucoup de papes qui ont été tertiaires, franciscains, Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoît XV, encore Pie XI. Et d'ailleurs, pour chacun d'eux, on pourrait faire une espèce de relecture franciscaine de leur action. Ça semble assez évident, par exemple, pour Léon XIII, mais même, par exemple, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais Pie XI et le Christ-Roi, je pense qu'on peut mettre directement la fête du Christ-Roi qui est instituée par Pie XI en relation avec une connaissance de Duns Scot et du rôle du Christ dans la théologie de Duns Scot. Je crois que pour chacun de ces papes, on pourrait faire une relecture franciscaine. Cela dit, je pense que Jean XXIII est celui qui a peut-être pris le plus au sérieux et cette appartenance franciscaine. Et c'est chez lui que ça peut le mieux se vérifier. Pourquoi ? Parce que les historiens ont une immense chance avec le pape Roncalli, c'est qu'en gros, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à quelques jours avant sa mort, tous les jours, il a noté ses rendez-vous. Alors, il ne donne pas énormément de détails, mais il note tous les jours ses rendez-vous, quelques appréciations sur sa journée. Tout ça existe en italien, ça a été édité. Et pour toute la partie où Roncalli a été nonce en France, c'est une partie importante, entre 1945 et 1953, je vous signale que ça a été traduit en deux volumes aux éditions du CERF. Hein, ça existe. Et pour chaque jour, on voit, on se rend compte en particulier, combien les liens avec la famille franciscaine sont importants. Alors, je vous ai dit que je commencerai par vous parler de Bacanello. Jean XXIII, le pape Angelo Giuseppe Roncalli, est né dans une petite ville, un petit village qui est situé à 20 km à l'est de Bergame, qui s'appelle Sotto il Monte. D'ailleurs, aujourd'hui, Sotto il Monte s'appelle Sotto il Monte, Papa Giovanni Ventetri. Voilà. C'est, la ville a changé. Et tout à l'heure, je vous ferai voir des photos. Il y a une rue, Pacem Interis. On les verra tout à l'heure, mais ce sera pour tout à l'heure. Donc, il est né dans cette petite ville, et à 20 km donc de Bergame, à l'est de Bergame, un milieu profondément chrétien. Faut pas oublier que tout ça, ce sont les terres de Charles Borromée. Enfin, c'est toute la réforme catholique, finalement, dans ce qu'elle a eu de mieux et de meilleur, finalement, a apporté beaucoup de fruits dans ces régions. Et Jean XXIII, donc Giuseppe Roncalli, a plusieurs fois raconté que chaque fois qu'il ouvrait les fenêtres de la maison de Sotto il Monte, le premier monument qu'il voyait, c'était un clocher d'un couvent franciscain, le couvent de Bacanello. Ce couvent est situé tout près, donc, là aussi à une vingtaine de kilomètres de Bergame. Il existe toujours, il avait été fondé au tout début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est le noviciat, d'ailleurs, de l'ensemble de l'Italie du Nord, le noviciat franciscain. Et Michel Laloux m'avait dit, il y est passé un peu de temps, Michel Laloux, nouveau provincial des franciscains, et il m'a dit que s'il devait y avoir dans le futur donc des novices franciscains français, ils iraient faire leur noviciat à Bacanello. Donc Bacanello existe toujours. Et donc, pour le pape Roncalli, Bacanello, c'est la référence. Il passe son temps. Les frères avaient dû partir à cause de Napoléon, et donc vous savez que finalement, si l'Italie a connu une interruption dans ses communautés religieuses, c'est à cause de Napoléon à partir de 1810. Et le couvent de Bacanello avait été fermé, il a réouvert qu'en 1888. Donc à une époque où Angelo Roncalli avait 7 ans. Donc à ce moment-là, Satan, il voit revenir les frères. Et à partir de ce moment-là, il n'a cessé de fréquenter les frères de Bacchanello. Donc ce sont des frères mineurs, ce sont des franciscains. Alors, il le dit très très régulièrement, y compris par exemple quand il est en France, quand il rencontre des frères, par exemple, des frères parisiens, des franciscains parisiens. À cette époque-là, par exemple, il y avait un couvent en nord de Paris qui s'appelait le couvent de la rue des Solitaires. Bon, il dit qu'il a passé une très bonne journée avec eux. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je me suis entretenu avec ces bons pères qui me rappellent Bacchanello avec une grande joie de fraternité franciscaine, simple et bonne. » Bacchanello, c'est l'image d'une vie franciscaine à l'état de perfection pratiquement. Et pendant toute sa vie, chaque fois qu'il va passer des vacances dans son pays, parce qu'il retourne régulièrement dans son pays, eh bien, il va à Bacchanello. Et il essaie de passer, par exemple, la Saint-François à Bacchanello. Par exemple, le 4 octobre 1952, donc il est nonce à Paris à ce moment-là. Ben voilà ce qu'on trouve sur son agenda. On lit simplement, alors qu'en général, il y a des tas de rendez-vous, il y a marqué « Solitude avec Saint-François à Bacchanello ». Hein ? Et le soir, il écrit « Oh, les belles heures passées dans le couvent de Bacchanello pour la fête de Saint-François, Sainte-Messe, et ensuite bénédiction du nouveau dé pour le Saint-Sacrement. J'ai ajouté quelques mots à l'intention des enfants et des braves mères qui y assistaient, en rappelant mes premières impressions d'enfance, précisément dans cette église et dans ce lieu franciscain. » J'ai passé toute la matinée en cellule, en portant de là mon regard sur le village de Soto il Monte, si beau dans la journée douce et lumineuse. Une heure de prière en compagnie de Saint-François et deux de travail sur les épreuves de mon dernier volume. Ensuite, repas fraternel avec les frères et avec le clergé de Calusco. Calusco, c'est un petit village à côté de Soto il Monte. On a tout à fait le pape Jean ici, hein. La fraternité, une heure de prière avec saint François et deux heures de travail sur l'épreuve de mon dernier bouquin. Et il était aussi historien, il faut savoir qu'il avait il a une œuvre d'historien et donc il travaillait aussi à l'époque où il était nonce encore à des livres d'histoire. S'adresser aux mères, aux enfants qui sont là, c'est tout à fait lui aussi, et il avait donc constamment pratiquement une cellule à Bacchanello. Plus tard même, quand il est pape, lorsqu'il est pape et qui s'appelle donc Jean XXIII, à l'occasion du 750e anniversaire de l'ordre qui a été fêté au Latran le 16 avril 1959, vous savez qu'en 2009 on a fêté le 8e centenaire, eh bien on avait fêté au Latran le 750e anniversaire, eh bien il évoque encore Bacchanello devant les frères, tous les frères qui sont là, il y a des sœurs, il y a aussi des tas de tertiaires. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Dès notre enfance, nos yeux se familiarisèrent avec la vision très simple du petit couvent régulier des frères mineurs de Bacchanello dans la vaste campagne lombarde. Une église, un modeste ermitage, un campanile et tout autour d'humbles frères qui se répandaient dans les campagnes pour faire la quête et pour diffuser cette atmosphère de simplicité ingénue qui rendait si sympathique saint François et ses fils. Et qu'il me soit permis de dire qu'après un long voyage à travers le monde, hein, à cette époque-là, il est pape, il a été un peu partout, il a eu des tas de postes, finalement, rien ne me fut jamais aussi doux et délicieux pour notre âme que de revenir à Bacchanello, à cette innocence, à cette douceur, à cette sainte poésie de la vie chrétienne, mûrie dans le sacerdoce et dans le service de la Sainte Église et des âmes. Donc ça, il ne faut jamais oublier ce contexte familial, ce lien très fort avec sa région et avec ce lieu précis où il y a toujours des frères aujourd'hui, le couvent de Bacchanello. Alors, vous imaginez, ça paraît un peu logique par la suite que dans un tel contexte, que très très jeune, il l'a plusieurs fois répété, il va adhérer au tiers-ordre. Il l'a dit, il était âgé de 15 ans, à ce moment-là, il était à tout début de son grand séminaire, à 15 ans, c'est l'année où il a reçu la tonsure, et la même année où il reçoit la tonsure, c'est l'année où il est inscrit au tiers-ordre, 1er mars 1896. Je n'ai jamais réussi à savoir si c'était la date de son début, parce qu'à cette époque-là, il y avait un noviciat et une profession, si c'était la date du début du noviciat ou la date de profession, enfin peu importe, c'est à une année près, mais 1er mars 1896, et à partir de ce moment-là, il va être tertiaire et c'est quelque chose qui va toujours se manifester très concrètement dans sa vie. Jamais il n'oublie les fêtes de l'ordre, jamais il n'oublie par exemple le 2 août d'aller dans une église franciscaine pour gagner l'indulgence de la portion cul. Et puis alors, partout où il va se trouver, donc dans les différents lieux en Bulgarie, mais aussi à Istanbul et en France, partout, il va tisser des liens d'amitié, de fraternité avec les frères et les sœurs de la famille franciscaine. Par exemple, lorsqu'il est à Istanbul, il a beaucoup de chance parce que les trois familles du premier ordre sont représentées. Hein. À cette époque-là, il y avait des capucins français qui étaient au séminaire Saint-Louis de Péra et on a de très belles photos où on le voit en clergyman parce qu'à cette époque-là, à Istanbul et en Turquie, il y avait interdiction de porter un habit religieux. Donc on voit tous les frères capucins en clergyman. C'est quand même assez drôle. J'ai une photo à vous faire voir, à vous faire passer que je trouve assez... on voit les frères et puis au milieu... on voit Roncalli, donc en clergyman. Bon, donc les capucins français, mais il y a aussi une paroisse italienne tenue par les frères mineurs, et il y a aussi l'église Saint-Antoine de Istanbul qui est tenue par les frères mineurs conventuels. Et avec chacun de ces familles, des trois familles du premier ordre, il a des liens. Et il n'a pas des liens qu'avec les frères. Il a aussi des liens avec les Clarisses, avec les franciscaines missionnaires de Marie, avec toutes sortes de franciscaines, hein, y compris des franciscaines qu'on ne trouve qu'en Italie. Et donc, avec tous ces gens-là, il entretient des liens. Alors par exemple, je parlais de fêtes franciscaines, évidemment il y a la Saint-François, et il y a un événement de la Saint-François, celui de la Saint-François 1948, qui se passe ici. Vous savez qu'ici, avant que ça soit une bibliothèque au-dessous, c'était la chapelle. Bon. Et vous savez qu'à la veille de la Saint-François, il y a toujours la cérémonie du Transitus. Bon. Et à cette époque-là, au Transitus, on invitait toujours un dominicain pour prêcher. Hein, et tous les tertiaires venaient, les tertiaires et les frères. Et ce soir-là, c'est le père Chenu, Marie-Dominique Chenu, qui parle, qui fait un panégyrique de Saint-François. Panégyrique, d'ailleurs, qui a été publié quelques jours après dans La Croix. Et alors, c'est très intéressant. Donc, dans l'assistance, il y a le cher Roncalli, il y a le nonce qui est venu assister. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il n'apprécie pas du tout, mais pas du tout, parce que vous savez que par certains côtés, Roncalli était extrêmement traditionnel. Et il n'apprécie pas du tout, en particulier le goût pour les structures, ce qu'il appelle le goût pour les structures du père Chenu. Hein. Et il dit que pour une assemblée tertiaire, c'était vraiment inutile d'avoir fait déplacer quelqu'un comme le père Marie-Dominique Chenu. Hein, pour, il appelle ça les braves tertiaires qui sont là, c'était inutile. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir que finalement la première rencontre entre un très grand théologien de l'époque, hein, quelqu'un qui, enfin, finalement s'il y a eu Vatican II après, c'est quand même aussi grâce au père Chenu et avec d'autres, et avec celui qui quelques années après lancera Vatican II, ben, ça s'est passé ici. Ici même, hein, dans cette pièce-là, ben, en dessous, si vous voulez, c'était un peu plus... voilà. Et le lendemain, il mange avec les frères, donc ça s'est passé ici. D'autres choses, si vous voulez, le nombre, je passe très très vite, mais tout devient prétexte finalement à rentrer en contact avec des membres de la famille franciscaine. Par exemple, vous savez que Roncalli, quand il était nonce en France, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager au total, aller se balader, aller rencontrer des gens. Finalement, il aimait le contact avec les gens un peu partout en France. Bon, il va en Corse, il prévoit d'aller en Corse. Comment est-ce qu'il prépare son voyage pour aller en Corse? Il fait venir le provincial de Corse, provincial franciscain de Corse. Et on a vraiment l'impression que son voyage en Corse devient une espèce de pèlerinage franciscain en Corse. Il couronne la Vierge de la Vasina. Donc la Vierge de la Vasina, c'est les frères près de Bastia, les frères mineurs détiennent ce couvent depuis le 19e siècle. Il couronne la Vierge de la Vasina. Ensuite, il visite les couvents. Il va à Marcasso. Ensuite, il va célébrer la fête de Saint Théophile de Corté, à Corté. Hein, Saint Théophile de Corté, c'est une grande figure de saint franciscain corse. Donc ça se passe. On a vraiment l'impression que ce passage en Corse devient une espèce de pèlerinage franciscain. Alors, on pourrait parler de ses contacts, de ses réseaux. Finalement, chaque fois qu'il a besoin d'une mitre à Paris, il va chez les franciscaines missionnaires de Marie parce que il y a des artistes et il y a des femmes là-bas qui sont douées pour fabriquer des mitres. Hein. Et c'est quand même toujours utile d'avoir une mitre quand on est nonce. Hein. Alors, on pourrait essayer quand même de voir un peu plus profondément, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'authentiquement franciscain et assez facilement, on peut le trouver. On peut voir en particulier combien il est intéressé, par exemple, par l'histoire franciscaine. Hein, il est intéressé par l'histoire franciscaine. Par exemple, il va se déplacer pour aller à la Cordelle. Hein. La Cordelle, vous savez, c'est le lieu, le petit ermitage qui symbolise finalement, qui rappelle le premier emplacement des frères, donc avec le frère le bienheureux Pacifique en France. Hein. Eh bien, il va à la Cordelle. Il est manifestement content d'y aller. Il y va avec le ministre général de l'ordre et avec le provincial. Alors, il y a comme ça énormément de points. Il y a aussi tout ce qui pourrait être autour de l'amour, de la fraternité, d'une réunion fraternelle. Enfin, c'est tout le temps, je veux dire, que ce soit avec les frères, l'importance énormément donnée à la fraternité, je crois. Et ça revient continuellement quand on lit ses cahiers, ses carnets, hein. Il y a aussi des références, par exemple, le fameux moment où le pape a ce rêve du latran qui s'écroule, hein, et où c'est le petit pauvre qui soutient le latran. Eh bien, assez régulièrement, cet épisode lui revient, et quand il va visiter le journal La Croix, hein, et ben c'est l'épisode dont il parle aux gens de La Croix, aux assomptionnistes de La Croix, qui ne sont pas des franciscains, mais il leur parle de cet épisode-là, pour leur dire, il faut qu'on fasse pareil, nous, il faut qu'on soutienne l'Église, et il faut que La Croix soutienne l'Église. Hein, ça serait intéressant de leur faire entendre... peut-être aujourd'hui, enfin, c'est toujours intéressant. Voilà. Il y a d'autres, par exemple, assez régulièrement, il parle du testament de Saint François, hein, dans ses prédications. Hein, il donne des éléments du testament de Saint François. Alors moi j'ai étudié plus particulièrement cette partie justement où il est nonce à Paris, mais je pense que c'est sur toute l'épaisseur de ces carnets qu'on pourrait comme ça repérer tous ces liens, toute cette imprégnation franciscaine. Finalement, il est imprégné de franciscanisme. Ça ne change pas d'ailleurs quand il est pape. Hein, il y a de multiples Fioretti où en particulier il reçoit le définitoire général des frères mineurs, par exemple. Au bout de 20 minutes, il y a le huissier qui vient et qui dit écoutez, 20 minutes, c'est a priori, ça doit durer que 20 minutes le temps d'entretien. Alors là, il explique au huissier que finalement, il les a fait venir exprès en fin de journée pour qu'ils puissent bénéficier le plus longtemps possible de leur présence. Il y a plein de petits épisodes comme ça. Il y a aussi l'épisode, toujours en 1959, là, au Latran, où il va interpeller les tertiaires et il va jouer un peu sur son second prénom, là, il s'appelle Joseph, hein, et sur l'épisode de Joseph et de ses frères. Et il leur dit aux tertiaires, il leur dit « Ego sum Joseph, frater vester, je suis Joseph votre frère hein, ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis frère dans le tiers ordre, je suis votre frère dans le tiers ordre. Donc on pourrait accumuler comme ça les Fioretti. Je voudrais juste terminer, parce que c'est pour moi quelque chose de très important, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que le bon pape Jean pourrait constituer un modèle pour nous, tertiaires, pour les tertiaires, ou appelez-les comme vous voulez, les franciscains séculiers. Pourquoi ? Il me semble, et il le dit très explicitement, le pape Jean... Angelo Roncalli, à quelque moment qu'il soit de sa vie, finalement, il est en contact, je l'ai dit tout à l'heure, avec les trois familles du premier ordre. Hein. Alors, il n'est pas tout le temps en contact avec les trois. Par exemple, en Bulgarie, c'est surtout les Capucins. À Istanbul, c'est les trois. À Paris, ça semble être à peu près équivalent, mais il ne rencontre pas les conventuels. Quand il est patriarche à Venise, il est manifestement très en lien avec les conventuels. Et en 1954, devant des tertiaires, il dit finalement quelque chose, à mon avis, qui est très important pour nous tertiaires. Il dit ceci. Dans les Balkans, je traduis, hein, j'ai rencontré des Capucins. En Orient, des Franciscains, des conventuels. Mais c'était toujours Saint François, qu'il soit vêtu de noir, de gris ou de marron. Angelo Roncalli a tout à fait conscience qu'il y a des différences entre les trois familles du premier ordre. Et qu'aujourd'hui, comme hier, nier ces différences, ça me paraît totalement absurde. Un franciscain, un frère mineur, ce n'est pas un capucin, ça ne l'a jamais été, et de même qu'un capucin, ce n'est pas un frère mineur conventuel. N'empêche que, il voit très bien ces différences, mais il n'a jamais de préférence. Il n'a jamais de préférence, y compris de préférence, je dirais, viscérale. Il n'a jamais de préférence. Tous les frères sont à égalité devant lui. Et ça, ça me frappe beaucoup. Ça me frappe beaucoup dans... Alors, je n'ai pas tout épluché, tous les carnets. Mais je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant comme attitude spirituelle vis-à-vis des frères. Qu'ils soient conventuels, qu'ils soient frères mineurs, qu'ils soient capucins, c'est par l'intermédiaire de ce frère que j'ai contact avec François. Pas de préférence. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, ça va être le petit dessert. Quelques photos que je voulais vous faire voir. On va commencer plutôt par celle-là. Non, pas par celle-là. Pas par celle-là. Okay. Voilà. Là, c'est par celle-là.
Là ?
Oui, celle-là. Ben, ça, c'est simplement simplement le couvent de Bacchanello. Hein. Bacchanello, donc, c'est là où il avait une petite cellule. C'est le couvent de Bacchanello. Je vous signale que dedans, vous avez une petite châsse avec les reliques de Saint Charles de Sèze, qui est une grande figure de frère laïc franciscain, qui a été canonisé par Jean XXIII. Ça fait partie aussi des choses intéressantes. Le premier saint que Jean XXIII canonise, comme par hasard, c'est un franciscain. Hein. Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous savez, il y a toujours une procédure, on offre au pape des reliques. Eh bien, qu'a fait Jean XXIII de ces reliques? Il les a offertes au couvent de Bacchanello. Et quand vous rentrez dans l'église de Bacchanello, vous voyez le petit reliquaire. Ensuite, on revient en arrière.
Là. Non, 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 non.
Bon, on remonte comme ça, voilà.
Ah, bon, hein, d'accord.
Voilà,
ah, bah,
c'est bien. Voilà, très bien. Voilà. Bon, ça c'est simplement c'est un petit clin d'œil, mais c'est Soto in Monte. Hein, Soto in Monte. Alors vous avez des rues qui portent les noms de tous les membres de la famille Roncalli, plus, voilà, ensuite, voilà, Viale Paciaminteris. Alors il faudrait enlever le stop, on n'est pas très doué dans la famille pour faire des photos. Et ensuite. Alors ça, les Italiens raffolent ce genre de choses, vous savez, c'est des statues un peu partout. D'ailleurs, je trouve que c'est très très beau actuellement à Rome, cette statue du Poverello qui est tout à côté du Latran. Et aujourd'hui, ça prend une autre signification avec un pape qui s'appelle François. Et là, vous avez à côté de la maison natale donc du pape, hein, donc à Soto il Monte, vous avez ce groupe sculpté et qui montre bien le rapport extrêmement facile. Extrêmement, et ça c'est quand même quelque chose qui est connu de tous, hein, d'espèce de grande familiarité avec le peuple de la part de quelqu'un qui en était issu, hein, qui est donc le pape.
Avec le petit chien.
Voilà, avec le petit chien, avec les petits enfants, etc. Voilà, alors ça c'est une photo qui date de quelques années, bon, qui est personnelle, mais je vous la montre parce qu'elle a un rapport très direct avec l'événement que nous fêtons aujourd'hui. Là, nous avons ici. Le père, Monseigneur Capovilla. Monseigneur Capovilla a été pendant 10 ans le secrétaire particulier de Jean XXIII. Il est né en 1915. Je crois qu'il est toujours vivant. Donc en 2 ans, il aura 100 ans. La photo a été prise il y a 3-4 ans. Et alors, il nous a reçus pendant quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de désigner, nous montrer une carte sur laquelle on voit le pape en train de signer l'encyclique Pacem in Terris. Et alors lui, il ne vient pas par quatre chemins. Hein. Pacem in Terris, il nous a dit, c'est le texte fondamental du XXe siècle. Le texte, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est le texte fondamental, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Ça nous a tous rappelé, ça nous a dit, le texte fondamental du XXe siècle. Voilà. Donc ça, c'est et donc c'est Monseigneur Capovilla, c'est une belle figure. Alors évidemment, il vit à Soto in Monte, hein, maintenant, et il vit dans les lieux, et c'est donc tout à la gloire de... Mais il vit toujours, c'est sans doute un des derniers témoins. Il a été exactement son secrétaire particulier entre 1953 et 1963, donc jusqu'à sa mort. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dépassé, voilà.